Jackie Robinson, un été à Montréal. C'est l'ouvrage que nous propose ce soir l'historien de formation Marcel Dugas, qui s'est intéressé à l'année magique vécue par les Royaux de Montréal en 1946. Et d'ailleurs, il y a 73 ans aujourd'hui, Jackie Robinson portait pour la première fois l'uniforme des Royaux dans le premier match de la saison qui avait été disputé à Jersey City. Nous recevons en studio Marcel Dugas. Bonsoir.
Bonsoir.
Pourquoi avez-vous décidé de nous faire revivre l'année 1946? Qu'est-ce qui, personnellement, vous a poussé à aller fouiller, parce que ça fait des années de recherche, pour nous produire, pour nous présenter ce livre aujourd'hui?
Ben, dis simplement, c'est une saison qui ressemble à aucune autre saison. Je peux pas penser à une équipe professionnelle qui a connu une saison comme celle-là. Non seulement c'est probablement la meilleure équipe de baseball qu'on ait jamais eue à Montréal, ils ont tout gagné sur leur passage, la saison régulière, les séries, la petite série mondiale, ce qui était le championnat de toutes les ligues mineures nord-américaines, mais en plus, c'est une équipe qui a changé le paysage, qui a révolutionné le monde du baseball, et même, je dirais, le monde sportif nord-américain dans son ensemble, parce qu'il faut bien se dire que avant l'arrivée de Jackie Robinson avec les Royaux, le monde du baseball était séparé en deux. Vous aviez d'un côté les Blancs, qui étaient les seuls à pouvoir jouer dans les majeures et dans toutes les ligues qui permettaient d'accéder aux ligues majeures. Et les Noirs, eux, ils s'arrangeaient comme ils pouvaient pour les grands boss du baseball. C'était pas important. Ils faisaient leur affaire, puis c'était tant pis pour eux. Finalement, il faut attendre 1946. Les Dodgers de Brooklyn décident d'engager un premier joueur afro-américain, Jackie Robinson. Et dans cette seule saison-là, on a détruit tous les arguments qui étaient utilisés depuis 60 ans pour justifier la séparation du baseball entre les Blancs et les Noirs. Et ça a ouvert toutes grandes les portes du baseball organisé, comme on l'appelait à l'époque, le baseball pour les Blancs, aux Noirs, autant à ceux des États-Unis qu'à ceux d'Amérique latine. Donc, il y a vraiment un avant et un après saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal.
Seulement au plan baseball, ça a été une année formidable et les gens assistaient nombreux aux matchs des Royaux de Montréal cette année-là, mais même certaines années auparavant, c'était un sport populaire ici au Québec.
Oui, on a tendance à penser que, bon, et puis c'est quelque chose que j'entends souvent, ici, on est seulement une terre de hockey, il y a seulement le Canadien, tout ça. Mais, évidemment, il y a
ça
eu...
Ça remonte fin des années 1800, les Royaux de Montréal.
Oui, absolument. La première édition des Royaux, il y avait eu une tentative en 1890, ça n'a pas marché. Ensuite de ça, de 1897, on a une équipe jusqu'en 1917. On a eu des problèmes de propriétaires, de stades. Dites-moi si ça vous rappelle quelque chose.
Oui.
Finalement, il y a une nouvelle équipe qui arrive, toujours dans la Ligue internationale. C'est un circuit de calibre 3, donc on est juste à un étage en dessous des ligues majeures. Et cette équipe-là, donc, de 1928 jusqu'en 1960. Donc, c'est 56 ans d'existence des Royaux de Montréal. Ils ont gagné 8 championnats. Ils ont gagné 3 fois la petite série mondiale. En plus de Jackie Robinson, tous les noms légendaires qui ont passé par Montréal, Duke Snyder, Roberto Clemente, Roy Campanella, Tommy Lasorda, c'est une longue liste de gens qui sont au temple de la renommée aujourd'hui. Donc, il y a une histoire de baseball très, très riche à Montréal qui date d'avant les expos. Et j'ai voulu en même temps donner un court résumé, parce que ce n'est pas une histoire des Royaux, mais j'ai quand même donné un résumé de tout ce qui s'est passé avant, y compris la saison 1945, où il y avait 3 Québécois, 3 Montréalais qui ont fait la pluie et le beau temps dans la Ligue, qui ont presque mené les Royaux au championnat. Jean-Pierre Roy, notamment, qu'on a bien connu, Stan Briard, Roland Gladue, qui ont fait les délices des amateurs. Et ensuite de ça, en 1946, vous avez Jackie Robinson. Et c'est là qu'a commencé la période vraiment faste des Royaux jusqu'à la fin des années 50.
Donc, la table était mise pour que les amateurs puissent encourager une équipe qui avait du succès. Et là, arrive l'année d'ensuite, Jackie Robinson. Il n'est pas le seul joueur de couleur à se présenter au camp d'entraînement des Royaux cette année-là. Mais on peut dire qu'avant que Jackie Robinson effectue une première présence à Montréal, il était attendu parce que le bruit courait partout en Amérique. C'était un dossier qui était suivi par certains journalistes, à tout le moins.
Dès le moment où il signe son contrat au mois d'octobre en 45, à ce moment-là, c'est une grosse nouvelle dans le monde du sport, mais vraiment partout en Amérique du Nord. Là. Tous les journalistes qui s'intéressaient au baseball avaient leur opinion là-dessus. Même le Sporting News, qui était la bible du baseball à ce moment-là, dit « L'intégration du baseball, c'est une quasi-impossibilité. Ça ne marchera pas. » Tout le monde qui avait jamais vu jouer Jackie Robinson disait « Ah, ses chances de réussir, ah, c'est 1000 contre 1, tout ça. » Ils se basaient sur quoi? Sur rien. C'était juste leur opinion comme ça. Mais il y a eu des spéculations tout au long de la saison morte. On disait « Il va recevoir un gros montant d'argent pour pas venir jouer dans la Ligue internationale. Il va arriver ci, il va arriver ça. » Finalement, il se présente au camp d'entraînement qui avait lieu en Floride, un état où là, c'était très, très, très difficile pour les Afro-Américains. Au deuxième jour du camp d'entraînement, lui, John Wright, l'autre Afro-Américain qui était au camp d'entraînement, Rachel Robinson, l'épouse de Jackie, ont dû fuir la ville où avait lieu le pré-camp d'entraînement parce qu'on craignait pour leur sécurité. Les gens de la place ont dit « Nous, on n'en veut pas du baseball intégré chez nous. » Et littéralement, ils doivent se sauver. Donc, ça, le camp d'entraînement commence comme ça. Déjà, il y a une menace à sa sécurité personnelle tout de suite en partant. Et tout au long de la saison, honnêtement, ça a été très difficile pour Jackie Robinson, qui se retrouve à la mi-août. Il est en burn-out. Le docteur lui dit, faut que vous vous reposiez. Épuisement professionnel total.
Il a raté beaucoup de matchs, d'ailleurs, cette saison-là.
Il a raté des matchs à cause de différentes blessures. Mais après ça, qu'il a été diagnostiqué comme étant en burn-out, il va prendre 3 jours. Il va avoir 3 jours de congé. Et il va recontinuer. Il va continuer pendant le reste de la saison. Il restait 1 mois et demi à faire jusqu'à la fin des séries. Il a continué à jouer à un haut niveau de jeu tout en supportant les insultes, les attaques personnelles sans jamais réagir pendant 1 mois et demi. Je ne sais pas comment c'est humainement possible ce qu'il a fait dans l'état physique et mental où il était à ce moment-là.
Ouais, c'est vraiment exceptionnel et il vivait diverses réalités en ce sens qu'il se retrouvait plus souvent qu'autrement en territoire hostile. Est-ce qu'on peut dire que quand il revenait à Montréal, il pouvait vivre l'autre côté de la médaille? Est-ce que c'était absolument parfait comme accueil où il y avait aussi des écueils ici et là à Montréal envers l'accueil d'un Afro-Américain dans notre équipe de baseball?
Les Montréalais, franchement, ont été irréprochables dans leur traitement de Jackie et de son épouse Rachel également. Dès le premier match au stade de Laurimier, il est le joueur le plus applaudi des Royaux, même plus que Stan Briard, le Montréalais dont je vous parlais tantôt. Donc, avant même qu'on l'ait vu jouer, il est déjà plus populaire, si on peut dire, que le petit gars de la place. Et même à la fin du match, on nous dit que son épouse a été encerclée par les amateurs qui voulaient avoir son autographe à elle. Donc, c'est le coup de foudre entre la ville et le joueur. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la toute fin de la saison, après le dernier match, quand il permet aux Royaux de gagner la petite série mondiale, où là, il y a cette scène-là qui est extraordinaire, où est-ce que tu as des centaines d'amateurs montréalais qui vont littéralement lui courir après dans la rue au sortir du stade parce qu'ils voulaient pouvoir encore lui toucher, le féliciter, lui serrer la main. Lui, il a un avion à prendre et il court au milieu de la rue sur 3 coins de rue pour échapper à ses admirateurs qui ne voulaient pas le laisser partir, littéralement, qui savaient que c'était la dernière fois qu'ils le voyaient probablement dans l'uniforme des Royaux. Ils ne veulent pas le laisser partir, donc c'est une scène inimaginable que de voir ça. Et c'est donc cette histoire d'amour-là a commencé et dure toujours aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. Il a passé une saison à Montréal, il a 73 ans, et pourtant son souvenir est encore très vif. Ici, on a 2 murales qui viennent de pousser tout récemment à son effigie. On a sa statue, on a des plaques. Et la famille Robinson n'a jamais oublié Montréal non plus. Ni lui, ni son épouse, ni ses enfants, maintenant ses petits-enfants qui viennent à Montréal, disent toujours, tous la même chose. Ils parlent du rôle que Montréal a joué dans la réussite de Jackie Robinson et comme quoi s'il n'y avait pas eu ce support-là, s'il n'y avait pas été aussi bien reçu à Montréal, toute sa destinée à lui aurait pu changer, sa carrière aurait pu être complètement différente si ça n'avait pas été de l'accueil qu'il avait reçu ici.
Est-ce que je me tromperais en disant que de raconter l'histoire de Jackie Robinson, c'est une histoire qui fait du bien à l'image qu'on a de nous-mêmes?
Oui, en fait, il y a juste un petit bémol, par contre. Parce que ce qu'on sait, c'est que si vous étiez noir à Montréal à cette époque-là et que vous faisiez pas gagner l'équipe de baseball locale, là, c'était un peu moins facile. Là, vous étiez souvent victime de discrimination. On sait qu'il y a certains commerces à Montréal qui servaient pas des noirs ordinaires. Il faut pas penser nécessairement que Montréal, c'était un paradis pour la communauté noire à l'époque en se basant sur la réaction qu'on a eue face à Jackie Robinson. Oui, ça a été possible, l'intégration ici, ça n'aurait pas été
parce
possible
partout.
Parce
qu'il était
partout.
Bon baseball.
Oui, mais entre autres, non, mais ça n'aurait pas été possible partout en Floride, dont je vous parlais
tantôt. Comprends.
Là,
ouais.
Ça aurait été impossible. Peu importe les circonstances, peu importe s'il avait frappé pour 300, 400 ou 500, là, il fallait oublier ça. Ici, ça faisait longtemps que ça se faisait du baseball des Noirs et des Blancs sur un même terrain, mais il y a certaines villes en Floride pendant le camp d'entraînement où c'était illégal des Noirs et des Blancs sur le même terrain. Il y a des matchs des Royaux qui sont annulés pour cette raison-là. Donc, pour ce qui est du niveau sportif, Montréal était en avance en termes d'acceptation des Noirs. Pour le reste, c'est un peu moins évident.
Quel souvenir Jackie Robinson a-t-il personnellement gardé, lui, de ce séjour, court séjour dans sa vie et sa carrière à Montréal?
Ah, il a gardé vraiment un souvenir ému. Quand il part de Montréal, juste après son départ, il dit, même si je joue jamais dans les majeures, c'est pas grave. Cette ville, donc Montréal, c'est ma ville. Pour moi, c'est le paradis. Et il a jamais dérogé de cette ligne-là parce qu'il est revenu par la suite. Il a été commentateur pour les Expos brièvement dans les dernières années de sa vie. Il y a un certain nombre de fois où il est reçu à l'hôtel de ville, tout ça, pendant des matchs de football, il reçoit les clés de la ville de Montréal. Et toujours, il n'avait que des bons mots pour l'accueil des Montréalais, pour l'accueil des partisans, pour l'accueil des gens dans le quartier Villeray aussi où il habitait, parce qu'ils ont été s'installer, lui et Rachel, dans un quartier francophone, catholique, blanc, alors qu'eux étaient noirs, anglophones, protestants. Ils étaient probablement les seuls noirs, anglophones, protestants à peu près dans tout le quartier. Ils avaient décidé de pas aller dans la partie anglophone de la ville. Et les gens du quartier, vraiment, les ont adoptés. Rachel était enceinte à ce moment-là. Les gens du quartier s'occupaient d'elle. Ils allaient la voir si jamais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue sur la rue pour s'assurer que tout allait bien. Rachel Robinson a dit, ça a été essentiellement notre lune de miel qu'on a passé à Montréal. Donc, ils en ont gardé vraiment un excellent souvenir. Et comme je le disais, même encore aujourd'hui, on est rendu à une troisième génération de Robinson qui vante les mérites de Montréal.
Ben, je vous écouterai en parler encore une bonne heure, mais je ne veux pas tout voler le punch ou en fait le plaisir que les gens vont éprouver à retourner se plonger dans cette année-là, 1946. Marcel Dugas, merci beaucoup de votre visite en studio. Fort intéressant. Jackie Robinson, Un été à Montréal, c'est publié aux éditions Urtubis, et ça a été lancé hier, alors c'est tout chaud encore.
Tout à fait, merci beaucoup.
Merci beaucoup, et au plaisir. C'était donc Marcel Dugas, auteur de cet ouvrage, Jackie Robinson, Un été à Montréal. On vous revient dans un instant avec une jeune dame qui fait son chemin comme officielle et qui rêve à la Ligue nationale dans un chandail zébré, la sœur d'Anthony Manta, Élisabeth.